Bonjour, c'est Emeline du blog Petit enfant deviendra grand. Dans cet article, ce podcast, je vous propose le résumé d'un livre sur les filles à haut potentiel. Ce livre m'a beaucoup intéressée. Il s'appelle « Et si elle était surdouée » de Doris Perraudin-Carlan. Il est paru en 2015. Après une partie théorique sur le haut potentiel, l'intelligence et sa mesure, l'auteur détaille les différences entre les filles et les garçons. Elle explique pourquoi il est important de reconnaître le haut potentiel, particulièrement chez les filles, et propose des pistes pour accompagner au mieux les enfants. Elle termine en évoquant les femmes à haut potentiel. Alors pour commencer, l'auteur explique qui sont les enfants à haut potentiel. Les spécialistes utilisent différents termes pour désigner le haut potentiel. Enfants précoces, surdoués, doués, intellectuellement précoces, EIP, à haut potentiel intellectuel, HPI. Dans les pays francophones, on semble actuellement préférer l'appellation d'enfant à haut potentiel, HP. Pour mesurer l'intelligence, le concept est très vaste, les psychologues utilisent un test de QI dont il existe plusieurs versions selon l'âge, comme le WISC-4, qui sont régulièrement mises à jour. En général, on considère qu'une personne qui a 130 ou plus à un test de QI est à haut potentiel. Mais de nombreux autres éléments sont à étudier, donc les psychologues effectuent un bilan psychologique, test de QI, mais aussi exploration de la personnalité dans son ensemble. Ils prennent aussi en compte les observations de l'entourage. Un bilan complet peut aussi permettre de détecter des troubles tels que la dyslexie, l'hyperactivité, etc. Les enfants HP sont tous différents, mais on remarque quelques caractéristiques communes au niveau intellectuel, la qualité du raisonnement, le vocabulaire riche, etc. Au niveau affectif, émotivité, sensibilité exacerbée. Au niveau sensoriel, capacité sensorielle très développée. Ils se sentent souvent en décalage avec les autres ou en décalage intra-individuel. Par exemple, entre leur niveau intellectuel et psychomoteur. Cela peut vite devenir difficile à gérer, pour eux comme pour l'entourage, car cela provoque beaucoup de frustration, qui est accentuée par leur grande émotivité. Pour ce qui concerne les différences entre les filles et les garçons, à la naissance, les filles sont plus sensibles aux sons, les garçons aux images. En grandissant, les garçons font preuve de plus d'aptitudes visuo-spatiales. On a tendance à ne pas socialiser les filles et les garçons de la même manière, même si l'on n'en a pas conscience. Les enfants construisent leur identité sexuée en observant d'autres humains. Selon ce qu'ils découvrent à la télévision, dans les livres, tout est orienté. Il y a par exemple beaucoup plus de héros que d'héroïnes, avec les jouets mis à leur disposition. Les jouets des garçons, comme les jeux de construction, vont plus développer leur intérêt pour les sciences, par exemple. On incite les filles à être calmes et les garçons à être plus vifs. Des spécialistes affirment que les filles sont aussi plus restreintes dans l'exploration de leur environnement. Tout ceci implique une moindre stimulation de leur capacité visuo-spatiale. En mathématiques, en début de scolarité, les filles et les garçons ont les mêmes capacités. Au fil des années, les filles abordent les sciences avec anxiété et finissent par être sous-représentées dans ces filières pour toutes ces raisons. De plus, les adultes accordent moins d'importance à leur réussite dans ces matières et ne l'attribuent pas aux mêmes raisons. Du travail pour les filles, des aptitudes pour les garçons, ce qui influe sur les performances. Les adolescentes peuvent même craindre de perdre leur féminité si elles s'intéressent aux mathématiques. De plus, les modèles de femmes scientifiques performantes sont très rares. Marie Curie devait se sentir bien seule. Par rapport au centre d'intérêt, à l'intégration et à la confiance. Chez les enfants HP, les centres d'intérêt sont plus proches entre les filles et les garçons. Les filles HP se sentent donc partagées entre ce qu'elles aiment et le fait de vouloir s'adapter à l'ensemble des filles de leur âge. Les enfants HP peuvent avoir du mal à gérer les interactions sociales. Les filles HP sont souvent victimes de leur empathie et sensibilité pour se suradapter. Celles qui ont d'excellentes performances peuvent même être rejetées, ce qui peut être d'autant plus difficile à gérer du fait de leur grande sensibilité. Elles finissent parfois par cacher leurs performances pour être intégrée, ce qui peut impliquer une perte de confiance en elles et en leurs capacités et compromettre leur futur. Pour que le développement d'un enfant soit harmonieux, il faut que ses capacités soient adaptées aux attentes de son entourage. Les parents doivent encourager, répondre aux demandes, sans pour autant avoir trop d'exigences. Les filles doutent plus vite que les garçons de leurs capacités. Elles ont plus tendance à attribuer leur réussite à la chance, par exemple. Elles ont souvent plus peur de l'échec et redoutent la prise de risque. Elles peuvent vite se dévaloriser, perdre confiance. Elles ont besoin de beaucoup de reconnaissance et d'encouragement. L'auteur parle ensuite de la reconnaissance du haut potentiel chez les filles. Elles n'ont pas forcément d'excellentes notes, contrairement à celles qu'une élève très scolaire pourrait avoir. Chacune a un fonctionnement qui lui est propre. Les parents repèrent en général assez vite, même s'ils pensent plus facilement à une fille très intelligente qu'avec un haut potentiel. Elle peut parler très tôt, par exemple, ou encore très tard, mais seulement une fois qu'elle maîtrise le langage. Elle aura tendance à être très curieuse, observatrice, avoir un fort caractère, adorer les jeux de mots, etc. Les parents et les enseignants. Il est important que l'école reconnaisse les capacités d'une fille HP pour les valoriser. Sinon, si elle est sous-stimulée, elle risque de ne plus vouloir aller à l'école. Un dialogue entre les parents et les enseignants est fondamental. Les enseignants doivent garder à l'esprit qu'ils peuvent être victimes de préjugés quant aux capacités des filles HP qui peuvent de plus cacher leurs capacités. Dès l'entrée à l'école, une fille HP se sent différente parce que son langage est plus complexe que les autres enfants. Il y aurait 6 profils d'élèves doués: qui réussit bien, provocatrice, effacée, à risque, doublement exceptionnelle, c'est-à-dire avec un trouble comme de la dyslexie ou de l'hyperactivité, autonome. L'auteur évoque ensuite le diagnostic du haut potentiel. Que peut apporter une identification officielle? Une identification précoce aura un rôle de prévention par rapport aux difficultés qu'une fille HP pourrait rencontrer plus tard. Elle pourra ainsi être mieux accompagnée. Cette étape et de prise de conscience est importante car elle leur permet de mieux connaître leur fonctionnement intellectuel et affectif, donc à mieux s'accepter, à mieux développer leurs capacités et à être plus épanouis. Cela permet aussi aux parents et aux enseignants de créer une autre dynamique pour les accompagner. Les parents peuvent hésiter à en parler par peur de passer pour des prétentieux. Suite au diagnostic, ils passent par plusieurs étapes jusqu'à l'acceptation du fonctionnement de leur fille. Les filles HP supportent mal la frustration, ont besoin de comprendre les choses. Cela peut être culpabilisant et épuisant pour les parents. Les filles HP ont besoin d'être rassurées, donc les parents doivent leur montrer qu'ils sont présents tout en définissant un cadre. La prise de conscience pour les enseignants. Il est important de créer un lien de confiance et de stimuler la fille HP d'une manière adaptée. Ni trop, ni trop peu. L'auteur propose des pistes pour travailler avec des filles HP. Les accepter telles qu'elles sont, savoir qu'elles peuvent être brillantes mais effacées, rester attentif aux émotions qu'elles expriment verbalement ou non, les encourager à développer leur estime de soi, valoriser leurs capacités élevées. Les élèves HP peuvent percevoir l'effort comme contraignant, surtout si elles ont toujours eu de bons résultats sans en faire. Elles n'ont pas non plus de stratégie d'apprentissage et leurs résultats finissent par chuter au moment où elles doivent fournir des efforts. Alors, quelle solution pédagogique l'école peut-elle apporter? Attention aux filles qui ne développent pas forcément tout leur potentiel en classe malgré des résultats qui peuvent laisser croire que tout va bien à l'école. Les mesures de différenciation en classe. L'enseignant crée des situations d'apprentissage qui permettent à chacun d'acquérir de nouvelles connaissances selon son propre rythme. Il peut donner un plan de la semaine, c'est-à-dire du travail, proposé ou choisi par l'enfant, que l'élève pourra faire en autonomie, par exemple des jeux de vision spatiale, etc. L'enseignant peut proposer un travail en atelier à la classe, mettre en place des projets, etc. Les mesures d'approfondissement. En histoire, par exemple, on peut proposer à une fille HP d'étudier des personnages qui ont marqué la période étudiée en classe par le reste des élèves. Les mesures d'enrichissement. Quand un travail est fini en avance, on peut proposer un coin découverte avec du matériel stimulant. De quoi faire des expériences scientifiques, par exemple, ou encore un projet de recherche. On peut les inciter à créer un portfolio de compétences dans lequel elles mettent en une trace, des photos par exemple, de tout ce qu'elles ont réalisé et dont elles sont fières. Il est bénéfique de pouvoir regrouper des élèves HP, même les filles qui ne dérangent pas la classe, minimum une demi-journée par semaine, en parallèle d'une différenciation pédagogique dans la classe habituelle. On peut proposer des activités extrascolaires, une langue qui n'est pas enseignée à l'école, ou encore aller dans une classe type sport-études. Les mesures d'accélération. On peut faire le programme d'une manière accélérée, suivre avec le niveau du dessus dans le cas d'une classe à plusieurs niveaux pour préparer un saut de classe en douceur. L'élève doit pouvoir alors étudier les aspects du programme des deux années. Le saut de classe peut être envisagé quand une élève HP est en souffrance à cause de la sous-exploitation de ses capacités. Cependant, le décalage entre le niveau intellectuel et la maturité affective est souvent un frein à un saut. Il est important de bien identifier la maturité socio-affective car une élève HP sous-stimulée peut aussi se renfermer sur elle-même, ce qui fausse l'interprétation. L'élève HP doit être en accord avec la décision et l'enseignant qui va l'accueillir devra y être très attentif, la rassurer, lui laisser un temps d'adaptation de quelques semaines et envisager de nouvelles adaptations pédagogiques. Le redoublement. Un soutien scolaire est en général plus adapté à une élève qui aurait des difficultés. L'auteur finit par évoquer les filles HP qui sont devenues femmes. Beaucoup de femmes douées n'ont pas conscience de leur potentiel exceptionnel, seulement de leur douleur et se sentent en décalage. Et même quand une femme HP a été identifiée, elle rencontre très souvent des difficultés à associer carrière et famille. Celles qui se réalisent professionnellement ont tendance à renoncer au mariage et aux enfants. Mais il n'est jamais trop tard pour qu'une femme prenne conscience de son potentiel et ou se réalise. En conclusion, la reconnaissance et une prise en charge adaptée des enfants HP, particulièrement des filles, puisqu'elles sont beaucoup moins souvent détectées car posent moins souvent des problèmes, est fondamentale. L'auteur souhaite que des mesures soient prises pour aller encore plus loin. Je vous donne mon avis sur le livre. J'ai trouvé ce livre passionnant. Même si de nombreuses pistes, comme la différenciation en classe, peuvent être adaptées également aux garçons HP et même à tous les élèves, quelle que soit leur spécificité, il me paraît en effet très important de souligner les différences entre les filles et les garçons HP pour toutes les raisons expliquées dans cet ouvrage. Prendre conscience des stéréotypes que l'on a sur les filles et les garçons, même s'ils ne sont pas HP, me paraît aussi fondamental. L'auteur propose plein de pistes concrètes pour accompagner les filles HP en classe. Je trouve cela très bien, mais je tiens tout de même à souligner que dans une classe, chaque enfant est différent et que chacun mériterait que l'on individualise son apprentissage avec différents degrés. Le nombre d'élèves, les contraintes matérielles font que l'on ne peut pas toujours aller aussi loin que ce que l'on voudrait ou pourrait. Je voulais aussi souligner que chaque enfant étant différent, HP ou non, il est toujours nécessaire de faire du cas par cas. Mais cela n'empêche pas de mettre en place des choses qui tendent vers toutes ces propositions. C'est un résumé du livre, donc si certains points vous parlent, je vous encourage à le lire en entier. N'hésitez pas à me donner votre ressenti dans les commentaires, bien sûr. Et à bientôt sur mon blog Petit enfant deviendra grand.